simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Je crois qu'on va vous parler ce soir de Gaza et aussi de la répression.
Alors, ben oui, de Gaza, malheureusement, c'est assez difficile de parler de Gaza même devant le peu d'informations dont on dispose. Faut-il signaler que depuis que ce massacre a commencé le 7 octobre, les journalistes internationaux ne sont toujours pas autorisés à entrer librement dans la bande de Gaza pour rapporter les conditions dans lesquelles se déroule alors, ce qu'on appelle le conflit, mais on a un peu de difficulté à mettre ce terme derrière ce qu'on est en train de voir. Ouais. On ose imaginer ce que donnerait cette situation, cette interdiction de la présence de journalistes dans un autre type de conflit. Ce qui est déjà un scandale en soi et un scandale qui n'est absolument pas dénoncé. À sa juste mesure, il faut pas attendre de la part de ce qui nous servent de médias français une quelconque critique d'Israël, même si depuis quelques jours, quelques semaines, devant l'horreur qui est en train de se passer, ils sont bien quand même obligés d'infléchir la situation. Alors, pour essayer de comprendre et de voir ce qui se passe, il faut aller du côté d'autres médias, les médias anglo-saxons notamment, mais surtout et aussi les médias arabes, hein, tous les jours en direct se déroule le massacre du peuple palestinien et plus particulièrement celui de la bande de Gaza, sans oublier évidemment ce qui se passe en Cisjordanie, bien sûr, ce qui font les deux faces de la même pièce. Et on se rend compte d'une part que quand on veut faire de l'information, on peut en faire, alors à un prix très très cher, puisque, faut-il le rappeler, 80% des journalistes assassinés en 2023 l'ont été dans la bande de Gaza. Hein. On est à 80 journalistes qui ont été tués lors des conflits. C'est pareil, hein, ce sont des chiffres qui d'habitude font évidemment les grands titres des journaux. Hein. On se rappelle ici les cérémonies auxquelles on a eu droit et le corporatisme auquel on a assisté lors du décès de quelques journalistes, en plus français, en Ukraine. Il faut se diriger de ce côté-là, pour ceux qui ont la chance et la possibilité de lire de l'anglais, et on peut quand même se raccrocher à quelques nouvelles qui sont à la fois terribles mais aussi intéressantes, puisque tout ne semble pas se passer aussi bien que possible. Et on vous avait parlé ici de quelques remous qui se passent dans la société israélienne, et on va y revenir puisqu'on vous l'avait promis. On va diffuser l'interview réalisée par un média américain d'un jeune israélien qui s'appelle Tal Mitnick, Turque et qui a refusé de rejoindre les rangs de l'armée à l'occasion de son service militaire obligatoire. Service militaire qui dure 2 ans pour les garçons, 18 mois pour les filles et qui est obligatoire. Tal est donc incarcéré dans une prison militaire pour la 2e fois fin février, période d'incarcération de 30 jours. Cette période d'incarcération, elle est renouvelée à chaque fois que Tal sera convoqué et qu'il refusera de s'enrôler dans l'armée israélienne. L'objection de conscience n'est pas un droit obligatoire en Israël. Hein. Il faut passer devant tout un tas de commissions. Et Tal est le premier objecteur de conscience à être incarcéré. Alors, il y a eu un courrier public de la part de 200 jeunes israéliens qui ont dit qu'ils refuseraient de servir dans l'armée. Et Tal a réussi un petit peu à médiatiser sa démarche, ce qui lui a permis de lui donner à la fois de la profondeur et de ne pas être évidemment complètement isolé. Alors avant de diffuser son interview qui a été réalisée par un site américain qui s'appelle Democracy Now, qui est une chaîne de télévision et une radio qu'on peut trouver sur le net et qui est vachement intéressant, même si c'est en anglais, je vais vous lire quelques extraits de sa 2e déclaration à l'occasion de sa 2e incarcération. Donc Tal déclare avant de rentrer en prison, il n'y a pas de solution militaire à un problème politique, c'est pourquoi je refuse de rejoindre une armée qui croit que le vrai problème peut être ignoré. Le 7 octobre, la société israélienne a vécu un traumatisme sans précédent dans l'histoire du pays. Lors d'une horrible invasion, l'organisation terroriste Hamas a assassiné des centaines de civils innocents, en a kidnappé des centaines d'autres, des familles ont été assassinées dans leur maison, des jeunes ont été massacrés lors d'une rêve et 240 personnes ont été kidnappées dans la bande de Gaza. Après l'attaque, une campagne de vengeance a commencé non seulement contre le Hamas, mais contre l'ensemble du peuple palestinien. Bombardement aveugle de quartiers et de camps de réfugiés dans la bande de Gaza, soutien militaire et politique total à la violence découlant en Cisjordanie et persécution politique d'une ampleur sans précédent en Israël. Je refuse de croire que davantage de violence apportera la sécurité. Je refuse de participer à une vendetta. Je ne veux pas participer à la perpétuation de l'oppression et au cycle de l'effusion de sang, mais plutôt travailler directement à une solution, et c'est pourquoi je refuse de rejoindre l'armée. J'aime ce pays et ces gens parce que c'est ma maison. Je me sacrifie et je travaille pour que ce pays soit un pays qui respecte les autres, un pays où on puisse vivre dignement. C'est quand même pas mal hein, pour un môme de 18 ans d'avoir cette capacité de se projeter. Alors, on va écouter un petit peu plus dans la longueur, une dizaine de minutes. L'interview date un peu, mais ça paraissait quand même intéressant de voir ce que dit ce garçon. Et puis, comment il va décrire un petit peu la répression. Camille, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer ?
This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Vous regardez Democracy Now!, The War and Peace Report. Je suis Amy Goodman. Israël poursuit ses attaques sur la bande de Gaza et le nombre de victimes palestiniennes continue de monter en flèche. Près de 25 000 Palestiniens sont décédés au cours des 3 derniers mois, dont 10 000 enfants, et des milliers d'autres sont portés disparus sous les décombres faisant de l'assaut israélien l'une des campagnes militaires les plus meurtrières et les plus destructrices de l'histoire récente. Dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a une fois de plus rejeté les appels visant à diminuer l'action militaire contre la bande Gaza ou à prendre des mesures en faveur de la création d'un État palestinien. Lors d'une conférence de presse, Netanyahou s'est engagé à poursuivre l'offensive jusqu'à obtenir ce qu'il a appelé une victoire décisive sur le Hamas.
As Netanyahu vows to continue Israel's assault on Gaza, we turn now to the first Israeli to refuse mandatory.
Nous recevons aujourd'hui le premier Israélien à refuser le service militaire obligatoire depuis le début de l'offensive israélienne. Tal Mitnick est un objecteur de conscience de 18 ans. Le mois dernier, il a annoncé qu'il refuserait le service militaire, déclarant, je cite, « Je refuse de prendre part à une guerre de vengeance ». Il a été condamné à 30 jours de prison militaire et vient d'être libéré hier matin. Tal Mitnick nous rejoint maintenant depuis un studio à Tel Aviv. Tal, bienvenue dans Democracy Now! Pouvez-vous expliquer les raisons de votre refus?
Merci pour votre invitation.
Thank you for having me on.
Je refuse parce que, comme je l'ai dit, je ne veux pas participer à cette guerre de vengeance. Je refuse parce que je veux m'exprimer sur la manière dont nous devrions nous comporter dans ce pays. J'ai le sentiment qu'il y a trop de violence ici, qu'il y a trop de vengeance, je veux dire d'un côté comme de l'autre. Nous devrions discuter de la manière dont nous devons avancer dans un avenir de coexistence, où Israéliens et Palestiniens pourraient vivre ensemble et vivre en sécurité et en paix.
Can live together and live with security and peace.
Quelle a été la réaction de vos amis, de votre famille? Je me demandais également, vous êtes israélien, mais vous avez un accent américain. Êtes-vous américain?
La réaction de mes amis et de ma famille a été, heureusement, très compréhensive, car les gens qui me connaissent et ceux qui parlent avec moi comprennent ma position de non-violence et de coexistence. J'ai l'impression que les gens qui ont pu me parler également dans la prison militaire, dont beaucoup sont des partisans de Ben-Gvir, soutiennent le meurtre de tous les Arabes. Lorsqu'ils ont appris à me connaître avant de connaître mes opinions politiques, ils ont compris. Ils ont compris qu'il y avait des gens qui ne soutenaient pas cela.
Ah, malheureusement, évidemment, ça marche
Dites-nous
pas.
Dites-nous de ce que cela signifie exactement. Comment avez-vous fait connaître votre position? Pouvez-nous parler de l'endroit où vous avez purgé votre peine de prison?
Go ahead. My friends and family response was.
Je suis donc détenu dans une prison militaire. Où sont également détenus d'autres soldats qui ont commis des crimes au sein de l'armée et qui ont été condamnés à de la prison militaire. Ce n'est pas une expérience amusante, mais ce n'est pas non plus la pire expérience imaginable. Ce n'est pas similaire à ce que les prisonniers palestiniens connaissent en Cisjordanie ou en Israël. Oui, c'est strict, très strict sur ce que vous êtes autorisé à faire et quand. Mais c'est quelque chose que je suis prêt à subir pour avoir un impact.
When they got to know me before they knew my political opinions, they understood. They understood that there are people that don't support this.
Avec avez-vous purgé votre peine dans cette prison?
Sorry, I can hear myself.
Quels sont
twice,
les autres prisonniers?
If you can possibly blank that out, because we're not sure how to fix that right now, but just continue to talk because we don't hear
fait,
you twice.
À l'intérieur de la prison, la seule source d'information que nous avions était un journal appelé Israel Ayom. Et chaque jour, dans les journaux, il y a des photos des soldats morts. Et je me souviens avoir ressenti. Je me suis senti triste, très triste pour les soldats et les familles qui doivent supporter ce fardeau de perdre un proche, mais je sais qu'en voyant des soldats mourir, je sais que cela signifie qu'il y a beaucoup de choses à faire. Davantage de civils palestiniens meurent, ce que nous ne voyons pas dans les journaux. Malheureusement, beaucoup d'autres personnes là-bas ne le font pas, ce sont des déserteurs, ce qui signifie qu'ils ont servi dans l'armée, puis à un moment donné, pour une raison quelconque, ils sont rentrés chez eux et ne sont pas revenus. La plupart de ces personnes désertent pour des raisons socio-économiques, ils sont dans l'obligation de devoir s'occuper de leurs frères et sœurs ou d'aller travailler pour leur famille. Et quand ils reviennent et se rendent, les condamnations de ces déserteurs sont très lourdes. Les personnes qui sont allées travailler pendant 3 mois pour nourrir leur famille sont désormais condamnées à 6 mois de prison militaire.
To be dead in the rubble, we don't even know that count. If you watch something like Al Jazeera or you watch other media, since there are only Palestinian journalists there on the ground, you see endless pictures of carnage, of horror.
Sentez-vous que le climat est en train de changer parmi les Israéliens? Est-ce que les Israéliens voient de ce qui se passe à Gaza? Je veux dire, nous parlons de près de 25 000 Palestiniens tués, de plus de 10 000 enfants. Si vous regardez Al Jazeera ou d'autres médias, comme il n'y a que des journalistes palestiniens sur le terrain, vous voyez des images interminables de carnage, d'horreur, de bébés sortis des décombres, morts ou vivants. Que voyez-vous à la télévision israélienne? Nous parlons de gens qui se trouvent à seulement 15 minutes de Gaza.
Je me sens très sad pour les soldats et les familles qui doivent take this great burden of losing someone close to them, but I know that while seeing soldiers die,
pouvez-vous nous dire s'il existe une opposition à la guerre en Israël? Je veux dire, il y a eu des manifestations massives, jusqu'à 1 million de personnes sont descendues dans les rues, ce qui est énorme pour Israël, contre Netanyahou qui voulait détruire le pouvoir du système judiciaire. Évidemment, étant lui-même inculpé, cette réforme l'aiderait à échapper à la prison. À ce moment-là, de nombreux réservistes ont déclaré qu'ils ne serviraient pas dans l'armée. Tout a changé après l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre. Pourquoi, pour vous, votre position n'a pas changé?
Ces manifestations sont incroyables. Ces organisations, comme Jewish Voices for Peace, accomplissent un super travail. Et je soutiens la poursuite de ces manifestations partout dans le monde. Un message aux autres personnes de mon âge, aux autres enfants, j'ai l'impression qu'il est important de savoir que nous avons une voix. Avant, je pensais que parler aux gens était tout ce que nous pouvions faire, mais nous pouvons changer et les gens veulent entendre ce que nous avons à dire parce que nous sommes l'avenir. Oui, nous sommes l'avenir et nous pouvons tout changer. Comme il n'existe aucune politique relative à l'emprisonnement des objecteurs de conscience, je ne sais pas vraiment combien de temps je vais passer en prison, mais cela pourrait prendre des mois.
Quel est votre sentiment à propos des déclarations du Premier ministre Netanyahou évoquant une fois de plus du fleuve à la mer? Lorsque cette expression est utilisée par les Palestiniens et leurs alliés, la réponse du gouvernement israélien a été « Cela signifie qu'ils sont pour le génocide des Juifs, parce qu'ils ne veulent pas que les Juifs soient là. » Maintenant, Netanyahou dit non que cela n'ait pas déjà été dit par le Likoud, mais Israël doit contrôler le territoire. Quelle est votre réponse à cela, Tal? Et si vous pouviez parler du mot « occupation » Parce que dans les médias américains également, on utilise rarement le mot selon lequel Israël occupe la Cisjordanie et Gaza.
The conception that we can live with the siege and with the occupation and not feel it. Now, when that conception is broken, we
dans la prison militaire, on m'a souvent demandé, qu'en pensez-vous? Nous devrions simplement arrêter la guerre, lever la main et ne rien faire. Et je répondais, non, nous devons continuer à nous battre. Nous devons continuer à lutter pour un avenir juste. Nous devons mettre fin au combat physique entre nous et nous devons faire pression de manière très, très agressive pour un avenir meilleur.
Inside military prison, I got asked a lot, what do you think, we should just stop the war and put our hands up and not do anything? And I would answer, no, we need to keep fighting for a just future. We need to stop the physical fighting between us, and we need to very, very aggressively push for a better future.
And finally, might you spend months, more than a year in jail?
Pour terminer, Tal, vous pourriez passer des mois, voire plus d'un an en prison si vous continuez à dire non au service militaire?
Because there's no policy set for jailing conscientious objectors.
J'ai été condamné à 30 jours pour ma première condamnation et j'ai reçu une autre convocation pour lundi matin, ce qui signifie que je dois être enrôlé ce jour-là. Je refuserai de servir une fois de plus et je serai probablement donc condamné à nouveau. Et cela se produira encore et encore jusqu'à ce que quelqu'un abandonne ou jusqu'à ce que l'armée m'accorde une exemption.
C'était Al-Mitnik, militant israélien de 18 ans. Le premier objecteur de conscience en Israël depuis le début de l'agression israélienne contre Gaza il y a plus de 100 jours. Il vient d'être condamné à 30 jours de prison, qu'il a purgé pour avoir refusé de s'enrôler et dit qu'il refusera à nouveau.
Alors, vous nous excusez pour la qualité du fichier, hein. On a fait ce qu'on a pu, mais c'était pas le fichier définitif, d'où le décalage que vous avez pu avoir. Ce qui est important, c'est que, rappelons quand même que ce garçon a 18 ans, même si on peut parfois hausser les épaules par rapport à certaines naïvetés de son propos, il faut quand même souligner la démarche. Et puis il y a un enjeu quand même extrêmement important, c'est que, entre guillemets, le premier des deux qui craquera, qui abdiquera, que ce soit l'institution militaire ou évidemment Tal, mais semble-t-il Tal ne va pas craquer, hein, et ben ça créera un précédent. Et donc, ça créera un précédent dans lequel les autres objecteurs de conscience pourront s'engouffrer et effectivement aller refuser de s'enrôler dans cette sale guerre coloniale. Alors, il y a plein de petites choses qu'on peut faire si on souhaite apporter son soutien à Tal Mitnick et d'une manière générale aux objecteurs de conscience, qu'on appelle des refusniks, en hébreu, sont gens qui justement refusent de service militaire. Donc évidemment, écrire aux ambassades israéliennes à l'étranger, envoyer un email de protestation au ministère israélien de la Défense, il y a un modèle de lettre, soutenir une association et se renseigner sur l'association qui s'appelle Mesarvot, MESARVOT, qui est un réseau politique d'objecteurs de conscience israélien, avec un email info.mesarvot@gmail.com, info.mesarvot@gmail.com. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site de l'Egrégore, évidemment on va vous les mettre, pour justement appuyer et lui démontrer que son action elle donne de l'écho et elle nous donne aussi de l'espoir à nous ici, parce que bien sûr évidemment on est aussi parfois un peu désespéré devant notre incapacité à agir. Parce que bon, là, on parle d'actions individuelles, c'est très bien, mais si ces actions individuelles ne sont pas mises et additionnées à des actions collectives, il faut bien penser qu'on n'arrivera pas à faire cela. Et on espère aussi qu'on va pouvoir assister, par exemple, à des actions de type boycott, type BDS, boycott des investissements sanctions, et à des manifestations de plus en plus massives et importantes en solidarité avec le peuple palestinien, évidemment contre la politique de l'État israélien. Alors, les actions individuelles, c'est bien, elles sont parfois même assez extrêmes, assez tragiques. On voulait vous parler d'une de ces actions qui a eu lieu aux États-Unis il y a maintenant 15 jours, qui est l'immolation d'un jeune homme de 25 ans, d'un soldat américain qui s'est suicidé par le feu. Devant l'ambassade d'Israël à Washington, la vidéo de cet acte a été postée sur le réseau internet Twitch. Elle ne laisse aucun doute sur les intentions de Aaron Bushnell. Bien que tout de suite, évidemment, la propagande a été fabriquée pour dire que ce geste était celui, évidemment, d'habitude d'un déséquilibré. Alors, on est là vraiment totalement dans la le deux poids deux mesures, le double standard que auxquels sont habitués les médias français, puisque faut le rappeler, l'immolation c'est un acte politique extrême au cours de l'histoire.
Il y en a eu deux dans l'histoire.
Il y en a eu plusieurs, certainement. Mais il y en a certaines qui ont reconnu notre attention. Alors il y a évidemment celle qui est très, j'allais dire, photographique, de Tang King Kong, qui est le moine vietnamien bouddhiste qui s'est immobilisé et qui a fait la couverture d'un groupe de rock, Rage Against the Machine, qui ont participé à certainement beaucoup d'entre nous à une forme de politisation. Il y a celle de Jan Palach, l'étudiant hongrois l'étudiant tchécoslovaque, pardon, pour protester contre l'invasion de son pays par les troupes russes, qui elle a effectivement beaucoup eu de retentissement. Il y a celle de Mohamed Bouazizi en Tunisie. Il n'y a pas d'image, mais on sait combien ce sacrifice, ce suicide a eu d'écho dans la jeunesse et dans la société tunisienne, et qu'elle a en partie déclenché les printemps arabes. Alors l'immolation de Aaron Bushnell a donné lieu à 14 lignes dans Le Monde. 14. Il aura fallu attendre 2 semaines, 10 jours avant que quelques quotidiens nationaux consacrent quelques lignes par-ci par-là. Pour vous donner un exemple, en 2020, une journaliste qui s'appelait Irina Sporatava a eu le droit à 3 articles dans Le Monde pendant une semaine, et on a rappelé ses motivations, d'où elle venait, et on a bien insisté sur la démarche politique pour éviter qu'on la transforme cela en un suicide. Alors il y a bien sûr, comme vous voyez, hein, il y a le camp des gentils, il y a le camp des méchants. Je crois que malheureusement, il y a une partie de la bourgeoisie et des impérialistes, alors qu'ils s'en foutent, hein, évidemment, ça, faut pas non plus exagérer, mais qui n'ont pas très bien compris à quel point ce qui était en train de se passer en Palestine allait changer les choses, que les choses avaient déjà changé, et que il y a une partie de l'Occident là qui est en train de vraiment se terminer, de finir et de mourir. Et donc ce jeune là, Aaron Bushnell, il est quand même pilote de l'US Air Force, hein. Il s'est immolé, il a fait une déclaration politique auparavant en expliquant qu'il refusait de se...
Je vais vous la lire, enfin,
vas-y, je t'en prie, hein.
Ah, je suis un membre actif de l'armée de l'air américaine, je ne serai plus complice d'un génocide, je suis sur le point de m'engager dans un acte de protestation extrême. Mais comparé à ce que les gens vivent en Palestine, aux mains de leurs colonisateurs, ce n'est pas du tout extrême. C'est ce que notre classe dirigeante a jugé être normal. Libérer la Palestine.
Ouais, alors cette incarnation, les Occidentaux, ils en sont finalement peu habitués, en fait, hein, à ces formes de protestation extrême. On l'a dit, alors bon... la mort, le traitement médiatique de... Enfin bon, voilà, hein, c'est... Alors qu'à l'étranger, la presse francophone africaine a beaucoup documenté ça. On espère que quand même ce non-traitement n'effacera pas le sacrifice politique d'Aaron Bushnell. Et on voit bien que... en tous les cas, le monde occidental, une vie n'en vaut pas absolument pas une
autre.
Alors,
ce qui est dingue, c'est que 3 mois plus tôt, c'est-à-dire qu'on était certainement en octobre, hein, une femme porteuse d'un drapeau palestinien, dont l'identité n'a pas été révélée, avait déjà tenté de s'immoler à l'entrée d'un consulat israélien à Atlanta, et avait survécu malgré ses blessures au 3e degré. Personne n'en a parlé de ça, hein, et on ne sait même pas son nom, on ne sait pas du tout de quoi il en retourne.
Je crois que ces formes de protestation individuelle, elles sont aussi liées au tragique de la situation, d'une part, et puis à l'incapacité pour le moment d'avoir un mouvement... anti-guerre qui soit capable d'infléchir et de sourcer. Il faut dire aussi qu'il y a une sacrée répression, puisque en France on en est déjà à plus de 300 procédures judiciaires pour apologie du terrorisme. Lorsqu'on a manifesté son soutien d'une manière ou d'une autre à la Palestine, on sait combien les manifestations ont été interdites au début, et il y a eu des tas de procédures qui ont été lancées, notamment par les préfets. En général, ça passe souvent par des déclarations sur des réseaux sociaux ou des réseaux dits sociaux, hein, comme Facebook, etc., mais aussi par des prises de position. On se souvient par exemple combien la perquisition qu'il y avait eu chez les syndicalistes dans le Nord, hein, au secrétariat de l'union locale pour un tract qui appelait à une manifestation. Donc c'est aussi ça qui participe de l'impossibilité d'un mouvement. Mais on va dire, malheureusement, on n'a pas le temps, mais le temps joue pour nous. Et par exemple, la manifestation de samedi a été quand même assez importante à Paris, et il est à penser que ça va grossir, et devant en plus l'horreur et l'incapacité injustifiable de d'apporter un soutien quelconque à Israël, quel qu'il soit, hein, de toute façon, on peut penser, on souhaite fait que le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien est contre le sionisme et contre l'État israélien puisse continuer. Voilà, bon, on va s'écouter un peu de musique un peu joyeuse, hein,
ouais,
pour l'histoire, on reviendra après, hein, et puis on va en profiter, ouais, voilà, pour quand même souhaiter un bon ramadan à nos compatriotes, hein, puisque c'est aujourd'hui le premier jour de ramadan. Et puis on le fait exprès pour bien faire chier les gens que ça fait chier qu'on le dise. Voilà, très bien. Bon, écoutez un peu de musique, puis on fera un truc un peu plus léger peut-être. Non, pas sûr.
Pas vraiment, non. Bon, alors bon, tu disais qu'on allait passer à autre chose. Non, on ne va pas passer à autre chose. Ah. Je me disais, bon, ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe dans ce, aussi en Cisjordanie, ça me fait penser que l'Israël, c'est une puissance terrible au niveau informatique, au niveau militaire, au niveau... voilà. Et alors, il y a eu une annonce qui a été faite par le journal israélien Haaretz.
Ouais.
Alors,
je sais pas, historiquement de gauche. Hein,
qui est historiquement de gauche, oui.
Dirigé par Gideon Levy, qui malheureusement ne peut plus rester en Israël tellement... il est critique, ouais, ça craint pour lui, mais il faut toujours écouter ce que dit Gideon Levy, c'est certainement un des meilleurs connaisseurs de la société israélienne.
Et alors, je cite donc ce journal, « Dans le but d'éviter de blesser les soldats et les chiens, Tsahal expérimente l'utilisation de robots et de chiens télécommandés pendant la guerre de Gaza. La plupart des tests ont été effectués avec un chien-robot, également équipé d'un drone. » Des bulldozers D9, télécommandés sans pilote, sont également utilisés. Alors Israël, c'est sûr qu'est soutenu en plus par l'Occident, massacre une population civile. Et le génocide colonial est aussi le terrain de tester sur les êtres humains les outils innovants du complexe militaro-industriel d'Israël. Une vidéo montre les robots déployés. Il s'agit d'un modèle baptisé Vision 60 et conçu par une société américaine appelée Ghost Robotics. Chacun de ces chiens coûte $165,000. Ils sont considérés comme semi-automatiques. Ils travaillent sous terre et au-dessus des décombres et peuvent remettre sur pied même s'ils tombent. Par le passé, la firme avait monté un modèle de ces robots baptisé Spire, en train de tirer en rafale équipé d'armes à feu sur le dos. Il y a quelques années, l'entreprise américaine Boston Dynamics présentait son premier robot chien de couleur jaune vif baptisé Spot. L'invention était présentée comme sympathique et inoffensive. Les grincheux qui annonçaient une future utilisation militaire d'un tel robot étaient traités de paranoïaques et de complotistes, jusqu'à ce qu'une entreprise décide de militariser cette machine. À présent, le robot est équipé d'un fusil d'assaut ou d'outils de surveillance et opère à Gaza en conditions réelles. Israël est à la pointe des expérimentations technologiques de l'horreur. Un LBD automatique tirant avec l'aide d'intelligence artificielle sur des cibles humaines est installé sur des checkpoints en Cisjordanie. Des drones tireurs équipés d'armes de guerre tuent à Gaza. L'intelligence artificielle est utilisée pour bombarder l'enclave palestinienne. Maintenant que ce nouveau marché est ouvert, que les premiers usagers sur le terrain sont réalisés par Israël, la surenchère ne fait que commencer.
Ouais, faut jamais oublier que, évidemment, la guerre est d'abord une saloperie en tant que telle, qu'elle est aussi la poursuite de la politique par d'autres moyens, mais qu'elle est aussi et surtout, on serait tenté de dire, un excellent marché, à la fois pour faire du fric et pour trouver des débouchés tels que tu viens de le décrire à l'intérieur de dizaines et de dizaines de boîtes qui vont venir soit d'une part tester leur saloperie, soit évidemment conquérir une part de marché, voire expérimenter ce qu'on peut expérimenter à la fois dans la capacité de l'acceptation des dites communautés qui subissent la guerre, mais de la sienne également, voir qu'est-ce que sa société est capable de supporter, et aussi voir qu'est-ce qu'on peut tester et balancer tous ces gadgets. Il est fort à croire aussi que le complexe militaro-industriel, d'une manière générale, le vieux CMI, comme quoi on s'en refait pas, hein, dans le capitalisme, on a toujours les bonnes bases. Il appuie fortement là-dessus. On sait par exemple que la France, à travers trois ou quatre sociétés qui sont pas tout à fait identifiées, on en a une qui s'appelle Exelis, vend des munitions à l'armée israélienne, puisque aussi puissante et aussi compétente que soient les forces de défense israéliennes, toujours utiliser les vrais mots. Hein. Tsahal, c'est un acronyme qui sert un petit peu à masquer, c'est les forces de défense, enfin les forces armées même, israéliennes. Tout aussi fortes qu'elles soient, elles sont extrêmement dépendantes de à la fois des moyens et aussi évidemment de l'argent, puisque rappelons-le, les États-Unis participent à hauteur de $15 milliards contribution annuelle au budget de l'armée israélienne. Rappelons que pour soigner le paludisme, où il y a une personne qui meurt toutes les 15 secondes du paludisme en Afrique, avec ça, ça coûte 30 centimes hein, d'euros.
Tu mélanges tout, là, tu mélanges tout.
Donc vous voyez un peu les priorités. Quoi. Voilà. D'autres choses aussi joyeuses ?
Ah, il y en a une autre qui est plus... plus marrante, plus sympa, dirons-nous, hein. C'est l'affaire Le Guay. Alors, Le Guay, c'est qui? Ben, c'est une femme qui est maintenant à 78 ans. Les faits remontent au 23 mars 2019. Il y avait une manifestation interdite de gilets jaunes à Nice. Elle, Geneviève Le Guay, est militante d'attaque. Elle était dans cette manif. Elle a été projetée au sol et grièvement blessée par la charge policière. Le commissaire Rabat Souchi, qui a ordonné cette charge, vient d'être condamné, à, c'est ça qui est étonnant, à 6 mois de prison avec sursis, le 8 mars, non pas de la femme, mais des droits de la femme, devant le tribunal correctionnel de Lyon. Ce n'est pas le policier qui avait violemment heurté la militante de l'attaque, mais sa hiérarchie qui a été reconnue coupable. C'est vraiment une grande première, quand même. Hein. Alors, faut pas non plus se faire d'illusions non plus. Faut pas dire comme Ari Halimi, l'un des avocats de Geneviève, disant que ce jugement met fin à l'immunité et à l'irresponsabilité des donneurs d'ordre en matière de violence policière.
Restons calmes, bon, Ari.
Restons calmes. Si seulement c'était vrai, non, mais ça va. N'empêche que, bon, de toute façon, ce fameux Rabat Souchi, il a déjà fait appel de cette décision.
Ah.
Hein, et son avocat considère d'ailleurs que c'est très contestable et sans surprise. Sans surprise parce que le procès s'était très mal passé pour eux. Hein, vraiment très très mal. Et alors ensuite, il faut dire que le fameux Rabat Souchi, qui a actuellement 54 ans, ouais, a été nommé directeur adjoint de la police municipale de Nice.
Ah ouais,
hein, il n'est plus donc dans la police nationale, il est quand même chef maintenant, adjoint de la police municipale de Nice. Un beau recyclage tout de même.
Ouais, alors il faut regarder dans la balance. C'est vrai qu'un commissaire condamné, c'est quand même assez exceptionnel.
C'est exceptionnel,
pour
ouais.
Mais dans cette affaire, il y a à la fois le profil de la victime, hein, qui, on va dire, était inattaquable. D'autre part, il y avait la possibilité de consulter et de compiler les... vidéo qui démontrait clairement qu'il y avait absolument
aucun
risque du tout et que la sauvagerie de l'acte avait été fait. Et puis on se rappelle aussi et surtout que d'une part le procureur de la République avait menti.
Oui.
À ce moment-là, et que le président de la République avait également menti. Alors, il s'était défaussé.
Incroyable. Ils avaient dit que cette personne, Madame Le Guay, n'avait jamais été en contact avec la police.
C'est ça.
Elle était tombée toute seule.
Il n'y avait pas eu de choc sur les choses. Et puis après, il y avait eu la condescendance habituelle de Macron de dire, quand on a 79 ans, on reste chez soi. Hein. Hein, voilà. Mais bon, on va dire que quelque part, cette condamnation, elle permet aussi de mettre le couvercle là-dessus. Et puis surtout, ce qu'il y a eu dans cette affaire, c'est le témoignage d'un commandant de CSI qui miraculeusement a témoigné à charge,
ouais, qui dit qu'il n'était pas d'accord du tout.
Voilà, à la fois au tribunal, mais avant le tribunal, à l'IGPN, en explicitant que lui, il connaissait son métier et que donc il n'avait pas à faire ça, que c'était ni adéquat ni à propos, et il a répété sa prise de position
au tribunal.
Au tribunal. Donc là, forcément, le pauvre sushi était cramé. Et oui, bah, je pouvais pas m'empêcher de pas la faire. Mais et donc, bah, c'est quand même le minimum. Alors, on voit quand même que c'est pas cher, hein. Six mois avec sursis pour un donneur d'ordre, le prix de la responsabilité, c'est un peu quand même une chance au grattage, une chance au tirage, hein. Si en plus après il y a bonification avec la direction de la police municipale de Nice. Donc on voit combien à droite, puisque Nice c'est Estrosi et Ciotti, on récompense la qualité
du
travail et la qualité des compétences. ne le croyez jamais, hein, les discours et les baratins de droite qui vous parlent de self-made, de travail, etc. On récompense jamais la compétence et la qualité à droite, on récompense toujours le copinage et la servilité. Voilà, si vous êtes capable d'essayer de prendre des coups pour vos supérieurs ou de faire ce qu'on vous dit de faire le clé barre. Ça, en général, vous êtes récompensé. Et en l'occurrence, le sushi, visiblement, elle l'a fait correctement. Alors après, en plus, pour ceux qui ont l'occasion de se documenter un peu sur le procès, on a quand même quelqu'un qui a été particulièrement arrogant à la barre. Ne voyant pas ce qu'on le rapprochait, il est quand même commissaire. Et puis on sait que dans un premier temps également, sa compagne avait été en charge de l'enquête sur l'affaire. Donc là, quand même, ça faisait beaucoup. La coupe était pleine, j'allais dire. Bon, voilà. Autre chose encore ?
Ah, autre chose, oui. Alors là, il s'agit de contrôle d'identité. Il y a eu une enquête du défenseur des droits, hein, qui a fait suite à la Cour des comptes qui avait estimé qu'il y avait près de 47 millions de contrôles d'identité. Il y a une enquête donc du défenseur.
47 millions.
47 millions de contrôles d'identité qui sont effectués chaque année. Chaque année, hein. 47 millions.
Alors, un million par semaine.
Selon une enquête du défenseur des droits, elle s'est adressée à des chercheurs du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales.
Ouais, le CSDIP.
Alors, il a parlé donc, il y avait une enquête donc sur les conditions d'exercice du travail des forces de l'ordre et leur attitude vis-à-vis de la population. Alors, ça a été publié le 27 février. Il y a deux policiers et gendarmes interrogés sur 5 qui jugent que les contrôles d'identité peuvent voir ou pas du tout efficaces pour garantir la sécurité des territoires. Ça, on le savait déjà, mais bon, ils sont quand même...
C'est eux qui le disent.
Alors, en plus, après, ils disent des choses inquiétantes, au moins, ils le reconnaissent aussi. Les pratiques professionnelles. Alors, les réponses, là, sont contrastées. Écoutez bien. Si l'usage de la force pour obtenir des aveux est réprouvé dans plus de 9 cas sur 10, donc approuvé par 10%.
Pour 10%, l'usage de la force pour obtenir des aveux, d'accord.
Près de 6 flics répondant sur 10, 60%, estiment que dans certains cas, le recours à plus de force que ce qui est prévu dans les textes devrait être toléré. Quand même, on le retrouve là, le fond.
Putain.
Le fond des violences policières, voilà. Alors, on sait que les flics se plaignent de ne pas être assez formés, de ne pas connaître le droit des citoyens. Ils ont quand même étudié le droit des mineurs à 66%, aux deux tiers. Mais concernant les droits des réfugiés et des étrangers, il n'y en a que 28%. Il n'y en a que 28% qui ont eu une formation là-dessus, évidemment. Alors évidemment, le défenseur des droits invite les pouvoirs publics et institutions concernées à mettre en œuvre les recommandations qu'elle a formulées à de nombreuses reprises, comme renforcer la formation initiale et continue des policiers et des gendarmes et de mettre en place un dispositif d'évaluation de la pratique des contrôles d'identité, de leur efficacité et de leur impact sur les relations avec la population. Ok, mais bon, on doute quand même que les violences policières s'expliquent par un quelconque manque de formation. Le problème n'est pas là, quoi.
Mais en plus, la formation, à la limite, tu peux la recevoir, mais il faut savoir si elle a été comprise et intégrée, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les notes d'admission à l'examen de la police nationale ont été descendues à 7 sur 20. 7 sur 20. À 7 sur 20, t'as même pas le brevet. Hein. À 7 sur 20 au brevet, t'es convoqué avec tes parents, t'es piquant qu'il va falloir penser à faire une institution spécialisée ou quelque chose d'autre, ou alors policier, apparemment. Mais c'est quand même assez tragique de penser que 60% des membres de force de l'ordre, donc qui disposent de la violence légitime d'une part, et qui sont armés en plus, c'est con là, d'autre part, trouve tout à fait normal d'utiliser de la force pour pouvoir obtenir et arriver à leur fin.
À leur fin, ouais.
Donc on est vraiment dans des gens qui ont tout à fait compris à quoi ils servaient. On a des individus qui sont dangereux, qui utilisent la force et qui, semble-t-il, aiment ça. En tous les cas, apprécient. Ça vous donne une capacité de la représentation de ce que ces gens ont d'eux-mêmes et de leur rôle dans la société.
Alors, il n'y a pas que les violences physiques qui sont utilisées contre les jeunes des quartiers populaires. Il y a aussi les amendes. La fameuse amende forfaitaire, c'est vraiment un outil répressif incroyable utilisé auprès des classes populaires. Cette sanction pénale est infligée par la police ou la gendarmerie, hors de tout contrôle de magistrat, hors de tout procès. Il y a une chercheuse donc, qui s'appelle Aline Delière, qui a mis en évidence dans sa recherche le policier juge de la rue, les amendes forfaitaires ou l'expansion du discrétionnaire, que les multiverbalisés, très majoritairement des jeunes hommes de 13 à 25 ans et résidents ou usagers de quartiers populaires, ont en commun de recevoir un grand nombre d'amendes forfaitaires. En clair, un moyen de racketter et d'humilier la jeunesse de banlieue en lui mettant encore plus dans la merde financièrement. La chercheuse a ainsi réalisé une enquête minutieuse sur cette stratégie de renseignement policière. Voilà. Certains jeunes, quand ils arrivent à 18 ans, ont jusqu'à 3000 euros de dette, voire plus, concernant ces amendes. Bon, on y reviendra. Je crois que notre camarade...
Il est assez pressé. Non, il nous reste encore 2 minutes. Non, mais c'est super important parce que partir... dans la vie déjà avec une ardoise comme ça
c'est dingue, ouais.
Voilà, et puis ça te crée un rapport après à l'institution et à la manière de faire valoir ses droits qui est très spécifique. Il y avait également un long papier, une longue étude sur la police de Baltimore aux États-Unis et qui avait montré combien l'amende était à la fois un moyen de se rétribuer pour les flics, puisque il y avait quelque part le crâne, donc le bâton qui était posé, c'est-à-dire qu'on fait de la procédure, et puis comme les contrôleurs dans le train, hein, comme les contrôleurs dans le bus. Et puis d'autre part, le fait de créer une relation complètement pourrie à ce que représente l'institution et la société d'une manière générale. Et voilà, on commence déjà à plomber les gens avant de leur faire partir, puisque les amendes, ça reste pour toujours. C'est-à-dire que même, tu me regardes, je le sais bien, on peut remonter jusqu'à 15 ans, hein, et encore même plus. Si y a des passages au trésor public ou si on va dire le législateur ou l'institution a décidé de vous faire cracher au bassinet.
Voilà. Ouais. Alors ces amendes forfaitaires, il faut dire qu'au début, on n'était pas directement concerné, les jeunes n'étaient pas directement concernés, sauf dans des cas bien particuliers. Maintenant, ça prend de l'ampleur, c'est-à-dire que quasiment tout maintenant et rentre dans cette procédure. Il y a 85, depuis le 24 janvier 2023, il y a un an donc, il y a 85 nouveaux délits, dont l'usage, dont l'outrage sexiste, l'occupation de halls d'immeubles,
ouais,
la vente à la sauvette, l'intrusion dans un établissement scolaire, un simple crachat sur le trottoir ou une canette qu'on laisse traîner sur un banc entrent dans la catégorie des contraventions de deuxième classe pour des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature que ce soit abandonné sur la voie publique.
Alors c'est une amende forfaitaire, c'est-à-dire que le policier constate l'infraction, dresse le procès verbal, voire même peut-être chargé de l'encaissement, tout cela sans passer par la procédure judiciaire.
Bien sûr.
Et sans possibilité, alors, ou alors avec une patience infinie,
c'est pas possible de faire recours,
de contestation ou de recours.
Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'elle dit, la chercheuse. Il n'y a pas de possibilité véritable de faire des recours. Alors au début, on a une amende de 35 euros qui est majorée à 75 au bout de 2 mois.
Voilà, c'est ça.
C'est et ainsi grossit, qu'il y a des jeunes qui se retrouvent avec, à leur 18 ans, de voir à l'état des jeunes.
Allons-y, ça y est, tu peux le lancer après.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
La radio libre et associative.